Je voudrais lire un premier texte avec vous, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7 et au verset 44. Alors nous partagerons beaucoup de versets. Certains, je vous inviterai à les lire avec moi. C'est bien le maximum que l'on puisse partager ensemble. Il y en a tellement que je vous en citerai d'autres. J'essaierai de vous donner la référence pour ceux particulièrement qui prennent des notes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 44, c'est le discours d'Étienne qui, après, est mort en martyr. Et il témoigne de ce que Dieu a fait, notamment pour le peuple d'Israël. Actes, chapitre 7, verset 44, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. » Dieu avait demandé à Moïse, avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle, c'était quoi? C'était un temple portatif, comme une grande tente, que l'on montait ou que l'on démontait au fil des voyages. Mais c'était surtout un lieu que Dieu avait choisi pour manifester sa présence. Et ce que nous allons appuyer dans ce verset, c'est que Moïse ne l'a pas construit comme bon lui semblait. Moïse l'a construit selon le modèle précis que Dieu lui avait montré sur la montagne. Vous retrouvez tout ce passage dans Exode au chapitre 25. Il ne l'a pas fait comme il voulait, mais il l'a construit selon un modèle précis avec des directives précises, que son nom soit béni. Regardez avec moi dans Jean au chapitre 13. Jean au chapitre 13. Le verset 34 et 35, bien connu. C'est un autre contexte, la dernière Pâque de Jésus avec les disciples. Jésus va leur dire ceci, Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous, notez bien le tous, connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Depuis 2000 ans, les chrétiens, les croyants authentiques ont la possibilité de faire connaître Dieu à tous les hommes en vivant entre eux le même amour que Christ a manifesté pour chacun d'eux. Et le titre de mon message ce matin prend à la fois ce verset et l'autre verset que nous avons lu tout à l'heure. Aimer d'après le modèle. De la même manière que la présence de Dieu a pu se manifester au milieu du peuple d'Israël parce que Moïse avait respecté les directives de Dieu et qu'il avait construit le tabernacle selon le modèle qui lui avait été donné, nous pouvons permettre la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous, dans ce monde qui en a tellement besoin, en nous aimant, non pas comme bon nous semble, mais comme le Seigneur nous a aimés. Alors il est normal pour nous de penser que la barre est très haute. Et c'est souvent aussi ce qui freine parfois malheureusement d'aller plus loin. Comment pourrions-nous aimer comme le Seigneur nous a aimés? Mais sachez une chose, c'est que quand Dieu nous donne un ordre, quand Dieu nous commande quelque chose, croyez qu'il a prévu la dose suffisante pour que vous puissiez le vivre. Chacun d'entre nous peut recevoir de Dieu par l'action du Saint-Esprit la quantité suffisante d'amour pour vivre ce que nous venons de partager. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les dons ineffables de Dieu dans Romains chapitre 5, verset 5. Croyez-moi, mes frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, Dieu ne trompe personne. Et s'il nous invite à marcher à sa suite, c'est que nous pouvons le faire, par la foi bien sûr, et en comptant sur sa grâce. Regardez dans Éphésiens au chapitre 5. Vous savez, Seigneur, il utilise les enfants aussi pour nous parler. On aurait pu, à la place du message, refaire chanter les enfants qui ont chanté tout à l'heure, parce que c'était exactement le thème du message ce matin. Éphésiens chapitre 5, verset 1 et verset 2, qui ont été lus tout à l'heure. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Devenez les imitateurs de Dieu. Nous pouvons, Dieu ne nous ment pas, Dieu ne nous trompe pas, nous pouvons nous aimer d'après ce modèle. Mais voilà, ce modèle de l'amour de Christ, le connaissons-nous vraiment? Moïse a vu le modèle sur la montagne. Il a eu des directives précises, il y a eu des mesures extrêmement précises, et vous relirez chez vous si vous le souhaitez à partir du chapitre 25 de l'Exode et tous les chapitres suivants. C'est impressionnant le nombre de fois où nous voyons comment le peuple d'Israël, sous les directives de Moïse, s'est appliqué à respecter à la lettre les mesures, les dimensions, les directives qui venaient directement de l'Éternel. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. De la même façon, nous devons regarder, nous devons analyser, j'irai jusqu'à dire ce matin, nous devons mesurer, nous devons nous imprégner, nous devons comprendre l'amour de Jésus-Christ pour que nous puissions, à notre tour, le reproduire avec fidélité, avec justesse. Le comprenons-nous véritablement? Vous êtes toujours dans Éphésiens, regardez au chapitre 3, verset 14 au verset 19. Éphésiens chapitre 3, verset 14, verset 19. Le premier point que je voudrais partager avec vous ce matin, qui en fait, c'est pas un message équilibré, parce que le premier point, il fait tout le message. Mais j'ai quand même, à la fin, envie de vous partager le deuxième point. Le premier point, ça sera les dimensions de l'amour de Christ. À cause de cela, il faut bien sûr relire le chapitre 2, relire le chapitre 3 en entier. À cause de cela, ça fait référence à tout ce que l'apôtre Paul a rappelé au travers du salut par la grâce, de ce plan extraordinaire que nous ne pouvons pas comprendre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Nécessité d'analyser, de s'imprégner, de comprendre, de mesurer s'il est possible les dimensions de l'amour de Christ pour que nous puissions le reproduire, faire comme Moïse a fait, fabriquer ce modèle précis. Connaissons-nous véritablement l'amour de Christ? Et je prendrai tout simplement ces quatre dimensions et essayer de nous approcher le plus possible, tellement nous avons besoin de nous imprégner des dimensions de l'amour de Christ. La largeur. L'amour de Christ n'est pas un amour étroit qui ne s'adresserait qu'à une catégorie particulière, en particulier de gens bien. Vous savez, une sorte d'élite spirituelle. Certains ont cette un petit peu notion, ils ont même peut-être parfois même pas approché l'Église parce que ils ont l'impression que l'amour de Dieu, il est réservé à une élite particulière. Paul est formel. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Romains chapitre 2 verset 11. Et nous devons comprendre que l'amour de Christ, il s'étend sur tous les hommes, qu'importe les origines, qu'importe la condition sociale, qu'importe les défauts corporels, le handicap, Dieu les aime tous. Jésus a dit ceci, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, » il parlait de cette mort, de cette crucifixion qu'il allait connaître. « Quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La largeur de l'amour de Dieu qui s'étend pour tous les hommes. Lorsque Jésus enverra les disciples, il dira ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs cette vision de Jean dans l'Apocalypse que je voudrais lire avec vous dans Apocalypse au chapitre 5 et le verset 9. Révélation de Jean extraordinaire. Il est question de cet agneau immolé, il est question de Christ qui a souffert à la croix du calvaire. Et juste peut-être lire ensemble le verset 9. « Et il chantait un cantique nouveau. » En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Lorsque vous regardez le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il s'est approché de gens complètement différents, de conditions totalement différentes, qu'ils soient quelqu'un de riche, de pauvre, même les exclus, même ceux que l'on ne pouvait pas et qu'on ne devait pas toucher, il les a touchés. Il s'est approché d'eux. Si vous arrivez à vous représenter tout ce qui peut différencier le genre humain, couleur de peau, statut social, caractère, mœurs, n'importe quoi, si vous arrivez à vous représenter tout ce qui peut différencier le genre humain, vous approcherez les dimensions incroyables de la largeur de l'amour de Christ. Le psalmiste le dit, l'Éternel est bon envers tous les hommes et il est plein de tendresse pour toutes les créatures dans le psaume 145. Et le verset 9, celui qui dans sa vie a connu des discriminations de toutes sortes doit savoir qu'en Jésus-Christ, il sera aimé exactement de la même manière que tous les autres humains. C'est cela, la largeur de l'amour de Christ. Et nous devons nous imprégner de ces dimensions parce que je vous le laisse encore à l'esprit, nous devons reproduire ce modèle. L'apôtre Paul aux Éphésiens a parlé de cette largeur, il a aussi parlé de la longueur. L'amour de Dieu n'est pas un amour de courte durée. Ce n'est pas un amour qui va te dire « un jour je t'aime à la folie, je suis prêt à tout pour toi » et le lendemain qui va te dire « je t'aime plus. » Tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus a manifesté beaucoup de bonté envers tous les hommes. Sa bienveillance était sur chacun d'eux. Et même au moment où il est élevé sur cette croix, Jésus continue de les aimer tous. Jésus dira ceci, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La longueur de l'amour de Christ, c'est un amour durable. Il se révèle par cette capacité à ne pas se lasser de pardonner. selon ces paroles du prophète Ésaïe au chapitre 55, verset 7, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il est important de préciser ceci, c'est que s'il n'y a aucune variation dans l'amour de Dieu dans le temps, cela ne veut pas dire forcément que nous en jouissions personnellement. Notre péché, notre désobéissance, notre rébellion fait que souvent, nous-mêmes, nous nous mettons loin de la faveur de Dieu. Mais quelle que soit la condition dans laquelle nous avons pu nous mettre, nous devons savoir et ne jamais oublier que l'amour de Christ, pour nous, ne change jamais. Jésus a raconté cette histoire où un père avait deux fils. Et le plus jeune, un jour, a demandé à avoir son héritage à l'avance. Le père a partagé, a donné à chacun de ses fils. Et le plus jeune, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris l'argent et il a dit qu'il est parti dans un pays lointain. Il a dépensé tout l'argent et à un moment donné, il s'est trouvé dans une situation misérable, à garder des cochons. Il a dit qu'il voulait même espérer de pouvoir manger cette nourriture des cochons, mais personne ne l'a lui proposé. Et là, au plus profond de sa misère, il s'est souvenu que même les serviteurs dans la maison de son père avaient du pain à l'abondance. Et il a bien réagi. Comme cela a été dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est important pour nous de nous approcher de lui. Il a tout accompli. Il est là avec sa miséricorde, sa compassion. Il nous attire à lui. Il ne change pas. À nous de changer. À nous de nous approcher de lui. C'est ce qu'a fait ce fils. Le garçon a changé, que Dieu soit béni dans son cœur, il s'est repenti. Mais l'amour du Père n'avait pas changé. Voici ce qu'il est écrit, il se leva et alla vers son Père, comme il était encore loin. Vous vous rendez compte, le Père, vous croyez qu'il l'avait même oublié ? Vous croyez que dans son cœur il n'était pas aussi présent, cet amour pour son fils, alors qu'il était encore loin ? Son Père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa dans Luc au chapitre 15, verset 20. Vous savez, quand on regarde toute l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons que l'amour de Dieu à l'égard du peuple d'Israël n'a jamais cessé. C'est un amour qui a toujours été constant pour son peuple. Par contre, l'amour du peuple à l'égard de l'Éternel n'a cessé de varier, un coup en haut, un coup en bas. Mais l'amour de Dieu, je voudrais que nous puissions être pénétrés de cette dimension de l'amour de Christ, qui est un amour qui va loin dans le temps. C'est un amour long, la longueur de l'amour de Christ. C'est un amour qui dure dans le temps, un amour qui ne connaît pas l'usure du temps. Je voudrais lire avec vous dans Néhémie au chapitre 9. Ce matin, le Seigneur a déjà invité, au travers de ce que nous avons entendu, quelqu'un, peut-être plusieurs, à s'approcher de lui. Je sais que la grande difficulté parfois, lorsque nous avons goûté réellement à l'amour de Christ, et que pour X raisons nous en sommes éloignés, un peu à l'image de cet enfant, de ce fils qui est parti avec l'héritage de son père, la grande difficulté de savoir que Dieu nous aime toujours autant. Et c'est ce qui empêche plusieurs parfois de s'approcher de lui. Dans Néhémie au chapitre 9, il faudrait peut-être lire tout le contexte, mais quelques versets, par exemple au verset 15, c'est Néhémie dans cette prière, « Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. » Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt, qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre Bible ? À pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même, quand ils se firent un veau en métal fondu et qu'ils ont dit « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils se livrèrent envers toi de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif pendant 40 ans. Ces 40 années, c'est eux qui s'y sont mis dedans. On est d'accord. C'est à cause de leur rébellion, désobéissance, à cause de leur péché. Et quel péché ? Quel outrage envers leur Dieu. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Regardez au verset 21. Néanmoins, c'est un peu plus tard, ils se soulevèrent, ils se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes, qui les conjuraient de revenir à toi, ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main des ennemis. Quand ils eurent du repos, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça y est, c'était gagné ? Vous savez, ce n'est pas pour juger et critiquer, mais quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, malheureusement, dans des formes différentes, nous ne sommes pas si loin d'eux. Et nous devons lire ces versets avec beaucoup d'humilité, je le pense. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Amen. La longueur de l'amour de Christ qui ne varie pas. Nous varions. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que parce que cet amour ne varie jamais, que nous en jouissons toujours. La preuve, c'est nous-mêmes, par nos péchés, nos désobéissances. Vous savez, quand il est dit que Dieu les a abandonnés, nous, dans notre perception des choses, l'impression que non. C'est que eux-mêmes, désobéissant aux lois de Dieu, comme cet enfant, eh bien, ils avaient profité de l'héritage pour partir loin de l'Éternel. Mais chaque fois que leur repentance a été sincère, chaque fois qu'ils ont reconnu leurs erreurs, ils ont à chaque fois rencontré l'amour de l'Éternel. Nous avons du mal à comprendre une telle constance dans l'amour. Pierre aussi a eu ce mal. Un jour, il a dit au Seigneur, « Mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » La longueur de l'amour de Christ nous parle d'un amour qui ne varie jamais. D'ailleurs, c'est un amour qui s'est manifesté même avant que nous l'aimions. C'est un amour qui était déjà là dans notre passé. L'apôtre Paul dit « Dieu prouve son amour envers nous » alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous dans Romains au chapitre 5, verset 8 et cet autre verset que nous connaissons bien. « Pour nous, nous l'aimons car il nous a aimés » le premier dans 1 Jean 4, verset 19. La juste mesure de la longueur de l'amour de Christ qui contient finalement à la fois le passé, notre présent et aussi bien sûr notre avenir, c'est Dieu lui-même qui la donne au travers de la bouche du prophète Jérémie. « Je t'aime d'un amour éternel. » Alléluia. Troisième dimension de l'amour de Christ, la profondeur. L'amour de Christ qui s'adresse à tous les hommes, l'amour de Christ qui ne connaît pas l'usure du temps a aussi ceci d'extraordinaire, c'est qu'il est prêt à tous les sacrifices. Il est écrit ceci, « Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes, en tout point, en tout, tout montrer qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix, dans Philippiens chapitre 2, verset 6 au verset 8. L'amour de Christ, ce n'est pas un amour superficiel, mais c'est un amour qui est prêt à tout pour le bien de l'être aimé. C'est ça la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaissez certainement cette histoire du jugement de Salomon, lorsque deux femmes se sont disputées un enfant que toutes les deux disaient légitime pour elles. Et vous savez ce que a fait Salomon? Aujourd'hui, on ferait peut-être des tests d'ADN. Ça prendrait du temps. Salomon avait trouvé quelque chose de plus radical. Ça a été rapide. Salomon a dit, prenons l'enfant, coupons-le en deux, puisque chacune dit que c'est son fils, on en donne une moitié à chacun. Il est écrit ceci, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit à son roi, à mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre, elle dit, il sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 25. Elle sentit ses entrailles s'émouvoir. Cette femme a prouvé l'authenticité de son amour par le sacrifice qu'elle était prête à faire pour sauver la vie de son fils. C'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Dieu a prouvé la profondeur de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous lorsque nous voyons perdu pour l'éternité, il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher, son fils unique, sur la croix du calvaire. Voici, dira l'apôtre Jean, comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie, dans 1 Jean 4, verset 9. La juste mesure de la profondeur de l'amour de Christ, bien c'est Jésus qui la donne lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est encore les yeux fixés sur la croix que nous arrivons d'une certaine manière à mesurer, en tout cas à essayer de nous imprégner le mieux possible, comprendre s'il est possible les dimensions de la profondeur de l'amour de Christ. Il y a une quatrième dimension, c'est la hauteur. Nous avons parlé de la largeur, de la longueur, de la profondeur. Parlons maintenant de la hauteur de l'amour de Christ. L'amour de Christ, elle prend celui qui est tombé très bas pour le faire monter très haut. Et quand je dis très haut, c'est très haut. Ce fils qui a dilapidé l'héritage de son père était tombé vraiment très bas. Et le père va dire quelque chose d'extraordinaire. Mon fils, voilà, il était mort. Et maintenant, il est vivant. Dans la Bible, lorsqu'on parle du séjour des morts, on parle de ce qui est en bas, descendre dans le séjour des morts. Et lorsqu'on parle du ciel, on parle de ce qui est en haut. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit ceci, « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Proverbe 15, verset 24. Et je crois que la juste mesure de la hauteur de l'amour de Christ, c'est cette distance qui sépare en fait le séjour des morts, il était mort, nous étions morts, des lieux célestes où il nous ouvre la porte du ciel. Et c'est encore vers la croix du calvaire que nous voyons cette dimension extraordinaire. Lorsqu'il y a ce brigand, vous savez que Jésus a été crucifié avec deux brigands. Voilà un homme qui était tombé très bas. Et il le reconnaît lui-même, hein, comme le fils prodigue a reconnu. Il reconnaît lui-même, ce sont nos crimes qui nous ont placés à cet endroit-là. Il était tombé tellement bas que la société ne savait plus qu'en faire, sinon lui ôter la vie. Mais il s'est tourné vers le Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et vous connaissez la réponse de Jésus ? Vous la connaissez ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Juste mesure de la hauteur de l'amour de Christ, c'est qu'il prend celui qui est tombé le plus bas, même celui qui est mort, et il le place dans le ciel. La croix nous ouvre la porte du ciel. Je voudrais lire quand même un autre verset avec vous dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, des versets que nous lisons souvent. Éphésiens chapitre 2, verset 4, et que je voudrais relire avec vous parce que cela nous concerne tous. Comprendre ces dimensions de l'amour de Christ. Mais Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, ça c'est en bas, nous étions morts. Condamné pour toujours. L'enfer éternel était notre destinée. Mais Dieu n'a pas voulu cela pour nous. Comme cette femme, quand elle a vu que son fils allait mourir, lorsque Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous donner la vie, il est venu. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ça, c'est en haut. Alléluia. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. La hauteur de l'amour de Christ, c'est un amour qui domine toutes choses, en bas comme en haut. Je cherchais un verset, il a été lu ce matin par notre frère. Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants, dans Romains chapitre 14, verset 9. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les dimension de l'amour de Christ. Je rappelle ce que nous a dit l'apôtre Paul. En tout cas, il prie dans ce sens que vous puissiez comprendre. Rappelez-vous, Moïse a vu ce modèle. Il a eu des directives très précises. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce modèle ? Eh bien, il a construit. Alors nous, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément besoin d'un modèle de construction d'église. Seigneur, je ne dis pas ça parce que je suis contre la construction des églises ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir du tout avec ça. Mais je veux dire que si nous nous concentrons peut-être pour construire des bâtiments et tout ça, je pense qu'il est surtout important pour nous, selon les Écritures, de construire et bâtir des relations, de nous aimer les uns et les autres, d'après le modèle que nous venons de partager ensemble. J'ai passé beaucoup de temps sur ce modèle, parce que je crois que l'application, après, elle en découlera rapidement, mais je voudrais quand même, dans cette deuxième partie, vous parler des relations fraternelles, juste rapidement pour vous donner des clés, pour que vous puissiez méditer. Mais ce qui est important, c'est de rentrer les uns et les autres dans la présence du Seigneur, de permettre à l'amour de Christ de vraiment remplir la vie de chacun d'entre nous, que nous puissions, au travers de la parole de Dieu, en lisant ce qu'a été la vie de Jésus-Christ, en lisant ses enseignements, que nous puissions réaliser le plus possible que nous pouvons toutes les dimensions de l'amour de Christ. Parce que si nous ne sommes pas imprégnés de ce modèle parfait, nous ne pourrons pas le reproduire au milieu de nous. Voyons très rapidement ces relations fraternelles. Si on reprend la largeur, vous savez, nous vivons une société où le racisme est non seulement présent, mais va certainement grandir en Europe. Et l'Église doit témoigner de l'amour de Christ en aimant tous les hommes, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses mœurs, sa culture. Aimez-vous comme je vous ai aimé. nous devons aimer tous les hommes. Accueillez-vous donc les uns les autres, dira l'apôtre Paul aux Romains, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, Romains chapitre 15, verset 7. La longueur. Il est difficile aujourd'hui d'aimer sur du long terme, quand on voit tous les dégâts, les divorces, etc. L'amour est trop conçu sur la base des choses, des sentiments, plus d'engagement. Au début, ça va, mais quand les caractères s'affirment, rien ne va plus. Dans l'église, ça peut être la même chose. Vous arrivez dans une nouvelle église, voilà, tout est beau, tout mignon. Au bout de quelques années, voilà, des frictions, etc. Dans l'église, selon le modèle de Jésus-Christ, nous devons nous aimer avec persistance et fidélité, même avec les plus pénibles. L'apôtre Paul dira aux Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres. » Alors supporter, on dit souvent porter avec, mais il y a aussi cette dimension de pénibilité quand même. Supportez-vous les uns les autres. D'ailleurs, il est écrit, « Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens chapitre 3, verset 13, la profondeur. Que de superficialité aujourd'hui derrière le mot « je t'aime ». Aujourd'hui, on veut bien aimer, mais pas sacrifier beaucoup de choses. C'est un amour qui se veut exempt de tout sacrifice. Dans l'Église, nous devons dépasser l'amour superficiel pour aimer d'un amour qui se donne avant toute chose. L'apôtre Jean dira « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. » Rappelez-vous tout à l'heure, les entrailles, c'est-à-dire son cœur. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean chapitre 3, verset 16 et verset 17. Je terminerai par cette dimension de la hauteur aussi. Vous voyez, je passe très rapidement, ce n'est pas forcément un message équilibré, mais je voulais quand même vous donner ces quelques outils pour que vous puissiez méditer, réfléchir, et puis surtout que nous puissions le vivre ensemble, car même si nous nous réjouissons de la communion fraternelle, et comme l'a dit notre frère, si nous réalisons que nous en avons besoin, nous devons grandir en tout cas. L'apôtre Paul dira « aimez-vous ardemment », c'est-à-dire continuer et aller de plus en plus vers cette dimension, c'est pratiquement répondre à un commandement du Seigneur, si vous êtes d'accord avec moi. La hauteur, dans notre société, vous savez, il y a de plus en plus d'individualisme, il y a beaucoup d'agressivité, je ne sais pas comment vous le vivez vous, mais dans les relations. Et tous les moyens sont bons, y compris aujourd'hui avec les réseaux sociaux, pour essayer de mettre l'autre plus bas que terre. Dans l'Église, nous devons être des serviteurs les uns des autres et contribuer à la mise en valeur de l'autre. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 2, verset 3 au verset 5. Je conclus ce message en disant ceci, c'est que le témoignage de l'Église primitive, lorsque nous le lisons dans le livre des Actes, nous montre qu'il est possible, mes frères et sœurs, mes amis, il est possible de vivre entre nous et autour de nous toutes ces dimensions de l'amour de Christ. Quel témoignage! Il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Aimer d'après le modèle de Christ, combien je nous encourage à méditer, à vivre nous imprégner, comprendre de plus en plus ces dimensions de l'amour de Christ afin de pouvoir les reproduire selon le modèle parfait que Christ nous a donné. Prions un instant le Seigneur. Éternel notre Dieu, combien une fois de plus nous voulons te bénir pour ta parole. Merci pour la vérité que tu places chaque jour devant nous. Merci parce que tu nous donnes la force. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, par ton amour envers nous, pour pouvoir prétendre à vivre ce que tu nous as demandé de vivre ce matin. C'est vrai que nous pouvons très facilement penser que ces choses sont au-delà de nos capacités, il est clair. Mais nous voulons nous rappeler qu'à la croix du calvaire, tu as dit que tout était accompli et que nous n'avions qu'une chose à faire. C'est par la foi saisir ces réalités spirituelles que tu veux gratuitement nous donner. Donne-nous à chacun d'entre nous, Seigneur, de nous imprégner dans notre vie des dimensions de l'amour de Jésus-Christ pour chacune de nos vies, afin que nos vies soient conformes à ce que tu veux, mais surtout également pour que nous puissions reproduire dans nos familles, Seigneur, autour de nos collègues de travail, mais surtout dans l'Église, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, vivre cette dimension de l'amour de Christ, afin que le monde, que ceux qui ne te connaissent pas, reconnaissent véritablement, comme tu nous l'as dit ce matin, que nous sommes tes disciples. Amen.